our head. Lord, as we gather here this fine Easter morning,
inclinons la tête. Seigneur, nous sommes rassemblés ici en ce beau matin de Pâques et nous voyons les petits bourgeons éclore et les abeilles voler pour obtenir leur nourriture, les oiseaux chanter comme si leur cœur allait éclater. Il y a de la joie parce que c'est Pâques. Nous croyons que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts il y a de nombreuses années et nous en souvenons en ce jour. Fais qu'aujourd'hui Pâques soit parmi nous. Puissions-nous, en tant que ses serviteurs, comprendre sa parole, car nous étions déjà en communion avec lui à cette époque. Maintenant, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Bénis le service divin ici, dans ce lieu de culte et à travers tout le pays, grâce à la retransmission. Guéris tous les malades et ceux qui sont en difficulté. Puisse ce jour être pour eux aussi une Pâque, une sortie de la maladie vers la force. Et que ceux qui sont morts dans le péché et la transgression puissent vivre aujourd'hui par le Christ. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est un privilège merveilleux d'être ici ce matin à Jeffersonville dans l'Indiana, dans cette grande réunion, et l'assemblée est pleine. Il y a même des gens qui sont debout à l'extérieur, et vous qui nous écoutez par la retransmission dans les nations, c'est une merveilleuse matinée. Ce matin à 5 heures, mon ami à la poitrine rouge est venu me réveiller. On aurait dit que son cœur allait éclater comme s'il voulait dire « Il est ressuscité ». J'ai toujours pensé à cet oiseau. Mon ami, je l'aime bien. Comme le raconte la légende, un petit oiseau le vit souffrir sur la croix, là où le péché l'avait conduit. Bien sûr, l'oiseau n'avait pas de péché, mais il vola vers la croix et essaya d'en retirer les clous, et sa poitrine devint rouge. Oh, c'est ainsi que je voudrais essayer de protéger avec ma poitrine comme un bouclier la beauté, la chose merveilleuse pour laquelle il est mort. Conscient que notre temps ici est limité, en particulier pour les amis qui écoutent la retransmission, je voudrais attirer votre attention ce matin sur une image qui a été prise il y a quelque temps par une caméra. Il s'agit d'une vision que j'ai eue ici dans cette maison de Dieu, où j'ai vu que je quitterai l'Indiana pour l'Arizona et que cet ange apparaîtrait sous la forme d'une pyramide. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je pensais que ce serait la fin de ma vie. Vous connaissez tous cette histoire. Puis, dans le caillon de Sabino, alors que j'étais en prière un matin, une épée a été placée dans ma main. Et on m'a dit, ceci est l'épée de la parole. Et plus tard, les anges sont apparus comme cela avait été dit à l'avance. Et au même moment, une grande boule de lumière a quitté l'endroit où je me tenais et s'est élevée dans les airs sur une cinquantaine de kilomètres, formant un cercle semblable aux ailes des anges et sinon dans le ciel la forme d'une pyramide dans la même constellation que les anges qui étaient apparus. Les scientifiques ont pris des photos depuis le Mexique alors que l'apparition se déplaçait depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait parlé, et c'était à 40 miles au nord-est de Tucson. L'apparition s'est élevée dans les airs et le Life Magazine a diffusé les images. Un mystère dans les sphères à 27 miles de haut et 30 de large. Maintenant, en venant là où étaient les anges, les scientifiques ont demandé, l'un d'eux est à Tucson, il voulait connaître la signification. Je ne leur ai pas dit, cela vous a été dit avant, ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Et là, il m'a parlé et m'a dit, les sept sceaux seront ouverts. Les sept mystères de la Bible qui étaient cachés depuis la fondation du monde seront révélés. Et nous qui ne sommes qu'un petit groupe par rapport au monde entier, nous avons maintenant bénéficié de ces bénédictions et nous entendons les mystères sur le mariage et le divorce, sur la semence du serpent. Toutes ces différentes questions nous ont été complètement révélées, non par un homme, mais par Dieu lui-même. Ces sept mystères concernant l'Église ont été révélés tels qu'ils étaient au commencement en Christ et tels qu'ils seraient révélés maintenant dans les derniers jours. L'image est accrochée ici et a été conservée, comme vous le savez, et Life Magazine l'a publiée. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vraiment regardé cette image et si vous savez ce qu'elle devrait être. Rappelez-vous, lorsque cette vision m'est apparue, je prêchais sur le thème de l'Apocalypse, selon lequel Jésus est le juge, dans l'Apocalypse chapitre 1. Lorsque nous avons commencé à parler des sept sceaux ou des sept âges de l'Église, Christ se tenait là, les cheveux blancs. Si vous inversez l'image de gauche à droite, vous voyez le Christ. Vous voyez ses yeux aussi parfaits que possible, portant cette perruque blanche en tant que juge du ciel et de la terre. Vous voyez ses yeux, son nez, sa bouche. Regardez. Vous devez la tourner comme ça. C'est comme ça que ça devrait être. Ce n'est qu'alors que vous pourrez le voir. Il est le juge suprême. Il n'y a personne d'autre que lui. Et c'est une identification et une confirmation parfaite que ce message est la vérité. C'est vrai. Vous voyez? Cela ne fait pas de lui une troisième personne, mais la seule personne enveloppée de blanc. Vous voyez les ténèbres, puis son visage, sa barbe, ses yeux. Remarquez comment il regarde. Et voyez, sur la croix, il a regardé à droite vers le pécheur à qui il a pardonné. Et dans la lumière de sa résurrection, nous allons de l'avant. En son nom. Ce matin, j'aurais aimé avoir assez de temps pour m'attarder sur ces apparitions extraordinaires qui se sont produites sans aucun doute pendant près de 35 ans, quand je me tenais près de la rivière en 1933 et que ces paroles ont été prononcées comme Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ. Ton message précédera la seconde venue. Nous sommes à la fin des temps. Nous le voyons. Parfois, nous nous demandons pourquoi cela ne s'est pas répandu sur toute la terre. Il se peut que si Dieu le veut, nous aurons un jour l'occasion de l'expliquer. Maintenant, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles, car nous croyons toujours que la parole doit venir en premier, c'est-à-dire qu'il faut lire la parole. Je la lis toujours en premier, car mes paroles sont les paroles d'un homme. Elles peuvent échouer, mais la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Nous voulons lire les Saintes Écritures et je voudrais que vous ouvriez trois passages de la Bible que j'ai choisi pour la lecture. Le premier est tiré de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18. C'est là qu'il est apparu avec ses cheveux blancs comme de la laine et ses pieds comme de l'airain. Je voudrais aussi que vous ouvriez la Bible au chapitre 8, verset 11 de Romains. Romains 8, verset 11. J'ai choisi de lire trois passages des Saintes Écritures ce matin pour mon message d'aujourd'hui que le Seigneur a mis sur mon cœur pour la résurrection. Ensuite, je voudrais aussi que vous lisiez Marc 16, versets 1 et 2. Je vais ensuite faire le lien avec ce passage. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, nous lisons maintenant ces paroles, versets 17 et 18. Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds. Alors il posa sa main droite sur moi et dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Verset 18, « Et le vivant, j'étais mort et voici que je suis vivant pour toute l'éternité. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Et dans Romains chapitre 8, le verset 11, nous lisons, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et maintenant, dans Marc chapitre 16, le chapitre de la résurrection, chapitre 16, verset 1, et deux. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller oindre le corps. Et au verset 2, et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, comme le soleil venait de se lever. Mon texte de ce matin, je voudrais aborder le sujet suivant. C'est le lever du soleil. Je voudrais aborder le sujet direct. La puissance qui vivifie. Peut-être avez-vous déjà entendu les différents prédicateurs à la radio. Notre cher frère Neville a également parlé ce matin du thème de la Pâque, de la résurrection. Et je me suis dit peut-être que j'aborderai le sujet sous un autre angle. Hein. Non pas pour me distinguer, mais pour adopter une perspective différente. Voyez, l'Écriture proclamera toujours Jésus-Christ, toujours. Nous ne pouvons en aucun cas nous en éloigner. Elle le proclame toujours. Aujourd'hui, le monde célèbre un service divin commémoratif où du moins les États-Unis de ce côté de la terre et ce matin dans les églises du monde entier, dans les communautés religieuses, on célèbre le souvenir du plus grand triomphe que les hommes aient connu. Je pense à la mort de notre Sauveur d'abord lorsqu'il est né enfant innocent. Voyez, lorsqu'il est mort, il a expié nos péchés. Mais beaucoup d'enfants aimables sont aussi nés et beaucoup de personnes ont souffert et sont mortes pour de vraies causes. Mais il n'y a jamais eu personne qui soit ressuscité. Seul lui, dans sa toute puissance et perfection, est ressuscité. Eh bien, la plus grande importance dans cette semaine, c'est la Pâque, car c'est à Pâques qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. Les gens peuvent dire quelque chose, mais cela peut ne pas être le cas où on peut ne pas pouvoir y croire jusqu'à ce que cela soit confirmé comme étant la vérité. Dieu prouve toutes choses. Examinez tout et retenez ce qui est bon et ce qui est bon. Voyez, il ne vous demandera pas de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Il a prouvé qui était celui qui est mort pour nos péchés. Et ce n'est pas seulement une journée de commémoration avec toutes ces belles fleurs de Pâques et ces lapins de Pâques et tout ce qui s'y rattache et toutes ces célébrations sacrées, nous laissons cela de côté. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit. Et les gens essaient aujourd'hui de dire, nous devrions avoir le lavage des pieds le jeudi saint et prendre la et prendre le repas le vendredi saint. Et il y a différentes doctrines, que ce soit ce jour-là ou tel ou autre jour, que ce soit le sabbat ou le premier jour. Voyez, toutes ces choses sont plus ou moins des traditions. À quoi cela vous servirait-il de savoir si vous respectez ou non le temps de jeûne? Voyez, ce n'est alors qu'un souvenir, qu'un enseignement, qu'une tradition. Mais l'essentiel est omis, est mis de côté. Satan se fiche de savoir à quel point vous êtes religieux, à quel point vous êtes juste dans votre enseignement. Car si vous manquez seulement la vie, vous ne sortirez pas de toute façon. Votre degré de religiosité, le nombre de communautés auxquelles vous appartenez ou appartiendrez, cela n'a rien à voir tant que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est pourquoi si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce n'était pas pour nous le rappeler en le ressuscitant et pas seulement pour que nous nous le rappelions en ce matin de résurrection une fois par an, le jour de la fête. La question est la suivante. Avons-nous pris part à la résurrection? Que signifie-t-elle pour moi? Que signifie-t-elle pour toi? Nous croyons qu'il est ressuscité des morts. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'était il y a près de 2000 ans. Eh bien, pour trouver ce texte, et vous savez que je suis fatigué et que j'ai mal au bras parce que j'ai reçu des injections, parce que je dois partir à l'étranger dans quelques jours, comme vous le savez. Et il faut parfois se faire vacciner contre le choléra et la fièvre jaune. Et je ne vais pas bien, ça me rend malade. Mais l'empereur l'exige et il faut lui donner ce qu'il demande. Donner à César ce qui est à César. Matthieu 22-21, mais donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et alors que j'étais assis là-bas à réfléchir à ce que j'allais dire à la foule qui attendait, j'étais tellement reconnaissant. Des hommes et des femmes donneraient leur vie ou se fieraient à ce qu'on dit. Comment dois-je faire? Quel texte dois-je utiliser? Et alors que j'étais assis là-bas et que je m'étais presque endormi, on a frappé à ma porte. Il n'y avait personne d'autre que moi, pour autant que je sache. Et j'ai entendu sans vraiment comprendre. Puis, après un moment, on a frappé à la porte intérieure. Quelqu'un a secoué la porte et je suis allé voir. à ma grande surprise, c'était une jolie fille blonde aux yeux bleus. Elle ressemblait elle-même à une petite fleur de Pâques. Elle est assise là et me regarde. Elle m'a tendu une carte et c'était... Vous savez, je savais que quand je rentrerais chez moi, il y aurait des cartes de Pâques, mais celle-ci, je l'ai reçue directement. Elle a dit, frère Branham, c'est de la part de papa et de moi. Elle voulait être sûre que le moi était bien dedans. Et son père, qui est artiste, mais qui s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur, a envoyé cette carte. Quand je l'ai prise et que j'ai remercié cette petite chérie, elle s'est retournée devant la porte et est partie. J'ai ouvert alors la carte. Et c'est de cette carte que j'ai tiré mon texte, car elle portait les versets 1 et 2 de l'évangile de Marc. Et voici que, concernant le soleil qui s'est levé, donc c'était écrit, et voici le soleil s'est levé. Et puis, j'y ai réfléchi, et le sujet de la puissance vivifiante de Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts, m'est venu à l'esprit. J'ai donc choisi mon sujet. Eh bien, il s'agit ici du lever du soleil. C'était une époque où le monde était plongé dans les ténèbres les plus profondes. Il était désert, il était vide et l'eau recouvrait tout. Et il était là dans l'obscurité, dans la brume, dans l'atmosphère sombre et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et il dit que la lumière soit. Dieu avait une raison d'agir ainsi, car sous cette eau se trouvaient des semences qu'il avait plantées et qui avaient besoin de la lumière du soleil pour éclore. Et la première lumière donnée à la terre était venue par la parole prononcée par Dieu. La première lumière était venue par la parole prononcée par Dieu. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres se transformèrent en lumière pour donner naissance à une création et créer la joie de vivre sur cette terre. Or, grâce à l'Esprit de Dieu, plein d'amour et de compassion, en ce premier jour de la création, ici sur terre, le soleil s'est levé et a fait briller ses rayons. Et la terre s'est asséchée. L'atmosphère au-dessus de nous s'est éclaircie. La joie et la vie sont venues sur terre et les semences ont germé. Oh, quel grand moment! Mais ce lever de soleil n'était pas encore rien comparé au lever de soleil de Pâques. Cette fois-ci, lorsque le soleil brilla dans le ciel, ce fut un lever de soleil plus grand que celui d'autrefois, car il apportait une signification plus grande, une nouvelle plus importante que le lever de soleil du début. Ici, il apporta la nouvelle. Il est ressuscité. Il est vivant. Il vit. Il est ressuscité des morts comme il l'avait promis. La première fois que le soleil s'est levé au premier jour, la lumière ici, la lumière terrestre dans Genèse est venue sur la terre. Mais cette fois, à ce lever de soleil dans Marc, il y a eu un double lever de soleil. Non seulement ce soleil que nous voyons, mais le Fils est aussi ressuscité pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu qui sont ou se trouvent ici sur terre par prédestination. non seulement la vie végétale qui est apparue à travers le soleil à l'époque qui est apparue, mais ici, les fils de Dieu qui sont sur terre sont apparus et la vie éternelle leur a été donnée à ses élus qu'il a reconnus avant la fondation du monde. Il les a choisis lui-même avant la fondation du monde. Et puis, le matin de Pâques, nos corps gissaient quelque part dans la poussière, car nous sommes la poussière de la terre. Dans le ciel, il y avait un livre dans lequel nos noms étaient écrits. Et sachez que si ce Fils de Dieu ressuscite, tous les fils sont inclus dans cette résurrection. Il savait que ce serait ainsi, d'autant plus que ce lever de soleil était plus magnifique que le premier autrefois. Maintenant, si nous prenons ce message sur la rupture du sceau de Pâques et que nous nous y plongeons, les gens s'envoient des messages et vont ici ou là. Et vous savez que même la médecine est efficace et que l'on veut faire le bien, en particulier en cette époque, en cette période, pour aider les organisations de malades, etc. Mais si nous croyons à ce message, le sceau est brisé, car le message est sous le sceau. Voyez, le véritable sceau de Pâques a été brisé au lever du soleil et le mystère de la mort a été révélé. Nous ne le savions pas jusqu'à présent. Le monde était dans les ténèbres. Il tâtonnait. Les gens ne savaient rien. La peur était dans le cœur des hommes. Les traditions étaient là. Les hommes servaient les idoles, les différents dieux. Et ils ont tous été mis dans la tombe et y sont restés. Mais le sceau véritable a été brisé. Lui qui a vécu autrefois comme nous vivions est mort, comme nous mourons, il est ressuscité des morts. Oh, quel matin! De tels événements ne se sont jamais produits dans l'histoire du monde. Le mystère a été confirmé. Il est à la fois la résurrection et la vie. Et il pouvait dire, je vis et vous aussi vous vivrez. Non seulement il a participé à la résurrection, mais toute la semence qui reposait dans la grande préscience de Dieu a participé à cette résurrection, car il a dit, je vis et vous vivrez aussi. C'était la rupture du sceau, et aussi certainement qu'il a été ressuscité. Tous ceux qui sont en Christ ressusciteront avec lui. Dieu a confirmé sa parole, voyez. Tout ce que les hommes avaient imaginé a été enlevé. Voici celui qui a vécu, qui avait communion parmi les hommes. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il n'a pas seulement donné l'explication, il l'a prouvé comme étant vrai. Quelle chose merveilleuse! Je suis si heureux. Nous qui croyons, nous pouvons à peine saisir quelle était la grandeur de cette chose, car il est ressuscité des morts. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui, car nous étions en lui. Tout comme l'eau recouvrait la terre, et que les semences qui étaient sur la terre ne pouvaient pas sortir avant que l'eau ne se rassemble, que le sol ne soit gagé et que le soleil ne brille. Ainsi en est-il de lui. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Sa semence sort. Il a prouvé que sa parole était vraie, car il a maintenant vaincu la mort, l'enfer et la tombe. La trinité du diable, la mort, l'enfer, la tombe. Voyez, car Satan est celui qui a causé la mort. Et il est le propriétaire de l'enfer et a pouvoir sur la tombe. Voici la trinité de Satan. Voyez, par la mort, tout est dans la tombe et puis en enfer. Mais une chose, une qui a été résumée dans la mort. Et les gens ont été maintenus dans la crainte. Mais maintenant, la vraie diversité de Dieu a donné naissance à la vie et a scellé que l'ennemi, la mort, tout cela a été vaincu et qu'il est Dieu. C'est moi qui étais mort et qui suis vivant pour toujours et qui est les clés de la mort et de l'enfer. Dieu s'est révélé et a habité parmi nous. Il a vaincu tous les ennemis. Il a prouvé que la trinité de Satan a été vaincue. Et Dieu lui-même a eu la puissance de ramener tout cela. Il était Emmanuel. Dieu s'est révélé dans la chair. Dieu révélé dans la chair. Il n'est pas étonnant qu'il ait pu revendiquer dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous êtes mes témoins dans le monde entier. Il avait vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Non seulement cela, mais il est sorti triomphant avec toute la puissance du ciel et de la, au ciel et sur la terre. Tout ce que le Père est, ce que l'Esprit Saint était, tout était en lui. Tout pouvoir au ciel et sur la terre lui avait été donné. Tout le reste était impuissant. Il avait tout vaincu. Et ce n'est pas tout. Il a donné la parole à ses disciples qui croyaient en lui. Ne craignez pas, car je suis celui qui était mort et qui est vivant pour l'éternité. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. J'ai vaincu. Ne craignez plus, car chaque semence prédestinée et élue par Dieu germera à la vie lorsque la lumière du glorieux évangile, le touchera, lui que Dieu a destiné à cela. Voyez, il est ressuscité des morts. Quelle chose merveilleuse. Je vis, rendu à la vie. En grec, ce mot signifie que quelque chose est ramené à la vie après la mort, comme une graine, comme une semence qui est plantée dans la terre. Et la semence doit mourir complètement, se décomposer. Chaque étincelle de vie qui est une graine doit alors refaire surface. Il a été rendu à la vie et ce n'est pas tout. Il se tenait là-bas et il voulait vivre la même chose et nous envoyer la même puissance qu'il avait fait sortir de la tombe pour nous rendre à notre tour vivants, afin que là où il est, nous puissions aussi être. Dans Luc, chapitre 24, verset 49, il dit, voici, je vous envoie la promesse du Père, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, pour montrer que non seulement il en tire les bénédictions, mais qu'il est là pour nous donner ces choses et nous faire vivre. Dans la semence prédestinée que Dieu a vue avant la fondation du monde, écrite dans le livre de l'agneau immolé. Nous étions ici sur terre sans espoir, sans espérance. Nous n'entendons nous n'entendons pas seulement parler des bénédictions, nous en faisons partie, nous en prenons part. Voyez, si la semence n'est pas sur la terre, elle ne peut pas être mise en vie. Elle doit être là et doit germer et sortir lorsque le Fils vient sur elle ou rayonne. Maintenant, regardez, il est venu pour tout partager avec nous. Oh, ce n'est pas un miracle. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Quand une personne meurt, que se passe-t-il? Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle? La naissance du Christ était une bonne nouvelle, un bon message. Mais il n'y a jamais eu de message de nouvelle aussi bonne que celle qu'il a donnée et confirmée. Que cette promesse qu'il a donnée et qu'il a confirmée lui-même, il vit pour toujours. Il a les clés de la mort et de l'enfer en main. Tout ce qui était dans les ténèbres, toute obscurité a disparu, car le Fils est sorti du tombeau. Et il reviendra. Voyez, l'évangile est le message de joie. Remarquez que l'évangile, le message de l'évangile est de prouver aux hommes qu'il est ressuscité. Allez, dites à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que je serai avec eux et que je leur confirmerai cela. Oh Dieu, que ces derniers jours soient des jours de lumière sur terre et je prouverai à mes disciples. Allez, dites-leur que je ne suis pas mort, que je suis vivant. Voyez, ce n'est pas une tradition, c'est un Christ vivant que je vais rencontrer. Transmettez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes les participants de cette vie et nous devons prouver que maintenant, sa vie est en nous. Il n'y a jamais eu de vie qui ait été vécue comme celle-ci. Il était le Fils de Dieu. Il est mort. Cela a eu pour conséquence qu'il est ressuscité des morts le matin de Pâques. Et nous, ses serviteurs, nous avons été chargés par lui, mandatés par lui, appelés par lui d'aller dans le monde entier et d'apporter à chaque personne ce message de joie qu'il est vivant. Et comment pouvons-nous le faire? Avec des paroles seulement. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 4 que l'évangile ne vient pas seulement en paroles, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance, la preuve qu'il vit. Maintenant, s'il existe un autre évangile, comme Paul l'a dit, d'autres groupes, Galates 1, verset 6, je ne suis pas surpris, dit-il, que vous vous tourniez si rapidement vers un autre évangile. Voyez, vous vous faites manipuler par des dénominations. Un évangile inventé par les dénominations. Et vous vous détournez de cette bonne nouvelle, de ce message de joie. Il a dit, Jean 14, 19, « Je vis et vous aussi vous vivrez. Je vis en vous et les œuvres que j'ai faites, Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites m'identifieront en vous. » Oh, quel message! Pas étonnant qu'un monde sombre se soit installé dans la théologie, mais à la fin des temps, la résurrection devrait à nouveau éclater. Il devrait y avoir de la lumière le soir. Eh bien, ce message ou l'essentiel du message qui a été envoyé était « Il est ressuscité des morts et nous sommes ses partenaires, ses participants, nous sommes ressuscités avec lui et nous en tirons des conclusions et prouvons par la parole, mais pas seulement par des paroles, pas par une tradition des hommes, mais alors nous ne faisons que refléter ce vers quoi nous sommes orientés. Malheureusement, je dois dire que trop de gens n'amènent pas les gens à Christ, mais seulement à une n'assembler à une théologie, mais nous devons les amener à Christ, car il est le seul qui est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. Si la vie d'une personne morte est en toi, alors tu auras la même vie qu'elle. Si le sang d'une personne appartient à un groupe sanguin particulier et que vous prenez le sang d'une personne et le transférez de cette personne à une autre, alors elle aura exactement le même groupe sanguin. Et si l'esprit qui est en vous est considéré comme mort et que vous êtes loin de la vie qui était en Christ et qui est en vous maintenant, alors selon Romains 8, 11, vous verrez que vos corps mortels sont rendus vivants par l'esprit qui habite en vous. Le même Christ, la même puissance, les mêmes bénédictions que celles qu'il avait reçues de Dieu ici-bas. Il vous a racheté. Vous qui étiez destinés à être ces semences avant la fondation même du monde. Et à la lumière de l'évangile de la résurrection qui confirme la parole, nous savons qu'il est le Christ. Car il a confirmé ce qu'il avait dit. Comment puis-je reconnaître le message de cette heure? Dieu a confirmé ce qu'il a promis. Voyez, il savait de quoi il parlait. Ce qu'il a promis, il l'a confirmé lors de la résurrection. Quoi qu'il ait promis, ce qu'il a promis au jour de Moïse, il l'a confirmé. Au jour de Noé, il confirma. Au jour d'Enoch, il confirma. Au jour des apôtres, il confirma ce qu'il avait dit. Nous faisons partie de sa semence représentée dans le livre de l'agneau immolé et il confirme à nouveau. Oh! Quel message! Un matin de Pâques, non seulement en connaissance de cause, mais en y participant, être en Christ. Ils étaient avec lui dans la crucifixion, avec lui dans la résurrection. Participer, être rendu à la vie, après avoir été mort dans les ténèbres, dans un monde sombre d'incrédulité, où les assemblées, les dénominations, etc., nous avons rejoint les méthodistes et nous avons participé à tout, mais nous avions soif de Dieu, nous avions faim, nous avions soif, tout le reste n'était que substitut, c'était faux. Mais ensuite vint la grande manifestation de la parole de Dieu promise, la résurrection, et comme il était la manifestation de la parole promise de Dieu, il a dit, psaume 16, verset 10, « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts et je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » Il devait ressusciter, car c'était écrit ainsi. « Eh bien, ceux qui tâtonnaient autrefois dans l'obscurité et se demandaient si le lavage des pieds devait être fait ce jour-là ou certains jours et si certaines prescriptions devaient être respectées. » Voyez, tous ces raisonnements sont passés, car c'était une résurrection glorieuse qui a mis fin à tout ce qui était fait comme raisonnement par les hommes. Voyez, il n'y a pas eu de temps comme celui-ci. Voyez, il l'avait prouvé, il est ressuscité, voyez. Et il disait, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Voyez, mais il nie tout cela. Ils disent, la Bible n'est plus la même. Elle n'est plus rien. Et pourtant, Dieu continue d'agir et d'aller de l'avant par son Saint-Esprit et prouve parmi nous qu'il est vivant. Nous sommes ceux qui récoltons le fruit de sa résurrection. Il nous a ramenés à la vie. Nous qui étions dans un monde mort par le péché, dans le péché et la transgression. Et nous a transférés maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Son esprit ramène sa propre vie sur terre. C'est l'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, le corps oint, Lorsque l'Esprit de Dieu a oint le corps de la même manière que la semence tombée en terre, il ne l'a pas laissé en repos là-bas, non. Il l'a ressuscité et rendu vivant. Le même Esprit, par les mêmes œuvres, par la même puissance, accomplira les mêmes signes et produise en vous et vous ressuscitera. J'ai encore un passage de l'Écriture pour vous. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. Peut-être que cela vous aidera un peu. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 9. Le Seigneur donna encore cet ordre à Moïse. Verset 10. Faites connaître aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous entrerez dans le pays que je vous donnerai, l'endroit, la position que je vous ai donnée, il dit alors aux enfants d'Israël, quand vous arriverez à cet endroit précis que je vous ai promis, quand vous serez entrés dans ce pays. Ici, il parle au naturel. C'est une image symbolique pour le spirituel. Verset 10. Et que vous fassiez la moisson là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Verset 10. Vous apporterez au sacrificateur les premières gerbes de votre moisson. Verset 11. Celui-ci tissera devant le Seigneur la gerbe donnée afin qu'elle vous rende agréable. Le lendemain du sabbat, le sacrificateur la tissera. S'il y avait eu un rituel saint, c'était le jour du sabbat, car c'était le septième jour, le samedi. Mais vous voyez ici, dans ce mémorial, la gerbe devait être tissé le premier jour, tissé, et c'était le premier fruit de la semence que vous avez semée. Quand elle arrive à maturité, vous la coupez ou vous la récoltez et vous la portez au sacrificateur et elle est tissée devant le Seigneur. Vous voyez, et cela témoigne que vous venez avec votre gerbe et qu'elle est tissée devant le Seigneur et que vous êtes accepté. Pas le jour du sabbat, mais le premier jour que nous appelons dimanche. Vous voyez, nous savons maintenant que cela vient d'un terme romain, à savoir du Dieu soleil et de la façon dont il a été modifié. Mais il ne s'agit pas ici du dimanche, mais du jour du Fils que je voudrais souligner. Le jour du Fils, le premier, le Fils de Dieu est apparu et a été tissé devant l'Église avant que nous soyons sa semence et les prémices, le premier fruit de sa semence. Vous voyez, le premier jour de la semence, de la semaine, il est ressuscité le dimanche. Et il a fait signe au revoir pour dire au revoir, puis il a été enlevé ou transporté vers le haut. Voyez, le premier grain de blé de Dieu est ressuscité des morts par la puissance vivifiante de Dieu. Ressuscité des morts. Il était le premier fruit de ceux qui sont endormis. Il était cette gerbe. C'est pourquoi cette gerbe devait être tissée, car elle était la première à mûrir. Elle a été tissée en souvenir et en remerciement à Dieu, croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Maintenant, lui, le Fils de Dieu, qui est venu à pleine maturité en Dieu, a été élevé de la terre et s'élève au-dessus des hommes par la puissance vivifiante. Quelle merveilleuse leçon. Tout cela était préfiguré par les symboles. Mais ceci était le premier fruit de ceux qui sont morts. Voyez, il était le Fils promis. le premier des morts. Et puis, le jour de la Pentecôte, quand le grondement d'un vent puissant descendit du ciel et que la semence promise fut rassemblée, voyez, les hommes à la Pentecôte, ils attendaient que la bénédiction vienne et qu'ils soient tissés ensemble. Voyez, et selon Luc 17, 30, le Fils de l'homme se révélera à nouveau dans les derniers jours et il y aura un tissage au-dessus ou au-dessous et parmi le peuple. Voyez, et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et malgré tous les enseignements que nous avons, la confirmation de la parole, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers la parole de Dieu, les signes et les miracles. Voyez comment j'ai présenté Luc 17, verset 30 et Malachie 4, verset 5 et toutes les paroles connues que j'ai souvent citées. Cette parole est tissée devant le peuple que les traditions mortes des hommes sont sans vie, mais que Jésus-Christ vit et que son peuple est venu à la vie par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, Christ a été le premier à être tissé par tous les prophètes. Il est le premier-né. Voyez comment l'épouse sort de l'église. Une gerbe doit être tissée en ces derniers jours. Le tissage de la gerbe. Voyez, le premier fruit qui arrive à maturité, il forme la gerbe qui est tissée ensuite. Alléluia. Le blé, je vous montre, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Tissé devant le peuple. Et quand il est venu pour la première fois, voyez, c'est l'âge de l'épouse, une résurrection, des dénominations, un message de sortie, de retour à la pleine maturité de la parole et un tissage devant le peuple de Dieu pour que sa parole soit confirmée par des signes et des miracles comme il l'a fait autrefois. Je veux que vous viviez, car je vis. C'est ainsi qu'il parle à son épouse. Quelle résurrection! Quelle résurrection est-ce là? Ressuscité d'entre les morts, rendu à la vie en Jésus-Christ par la puissance vivifiante de Dieu. Il a été tissé devant eux. La parole qu'il était a été à nouveau tissée devant eux le jour de la Pentecôte. La parole a été révélée, manifestée et je dis qu'elle sera à nouveau tissée dans les derniers jours. Maintenant, imaginez, par exemple, que nous rentrions cet après-midi à Tucson. Et que nous y allions tous dans une toute nouvelle Cadillac et que tous les sièges étaient en cuir fin, finement recouverts et si doux et confortable et le revêtement de sol serait recouvert de peluches et le moteur serait là et aurait été testé et les roues, tout serait là, tout serait lubrifié et les pneus auraient la bonne pression, tout serait testé scientifiquement et la voiture sortirait de la chaîne de montage. Mais si vous n'avez pas mis d'essence avec l'octane et que vous ne faites pas démarrer le moteur, vous voyez, bien que les deux aient l'air bien, tel et tel Cadillac, mais l'une d'entre elles, rien ne s'allume, il n'y a pas de puissance pour produire une étincelle. Oui, vous dites, alors la puissance est dans l'essence, oui, peu importe. porte la puissance de l'essence, à moins qu'il y ait une étincelle pour traduire cette puissance afin qu'elle fasse avancer quelque chose. On pourrait tout aussi bien y verser de l'eau. Voyez ? Peu importe la théologie que nous avons, la finesse avec laquelle nous avons tout mis en place, le nombre de dénominations que nous avons, à moins que ce Saint-Esprit ne vienne sur la personne pour rendre la parole vivante. L'essence représente la parole révélée, mais sans l'Esprit, elle ne se mettra pas en mouvement. Voyez, nous pouvons mettre beaucoup de valeur ou d'accent sur la mécanique et pas assez sur la dynamique. Nous avons besoin de la puissance dynamique de Dieu, de la puissance de résurrection de Jésus-Christ pour que la puissance de Dieu se manifeste afin que nous puissions prouver que c'est bien de l'essence qui a été versée dans le réservoir. Vous voyez? Mais la seule preuve, c'est d'allumer le moteur et alors on verra si c'est de l'essence ou pas. Et si vous essayez de mettre le Saint-Esprit dans une dénomination, ce serait comme si vous mettiez de l'eau dans un réservoir. Et si vous mettez de l'essence de mauvaise qualité, les bougies vont se noircir et ça ne marchera pas. Non, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la parfaite harmonie et la puissance de résurrection de Dieu doivent entrer dans la vie des hommes et des femmes. Et alors, vous pourrez voir la Cadillac descendre la route et voir une force dynamique du Saint-Esprit, une puissance dynamique du Saint-Esprit. Et comme à la Pentecôte, la gerbe est tissée devant le peuple. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici le roi de tous les prophètes. Voici l'église et l'épouse, etc. Alléluia! Une véritable épouse doit se manifester. Il doit y avoir une chose avec de la mécanique et du dynamique et du dynamisme. Souvenez-vous que l'église est rendue vivante par l'Esprit et qu'elle se meut dans la puissance de sa résurrection. Jusqu'à ce que nous y arrivions, jusqu'à ce que nous trouvions le lieu, à quoi cela sert-il de polir le char, la voiture, à quoi cela sert-il de tirer la voiture, même si on utilise de la cire, alors qu'il y a tant de puissance dans la voiture et que la mécanique a fait ses preuves, que tout est en ordre et que rien ne se passe. C'est ce que Pâques prouve. Il n'était pas seulement la parole, il était Dieu lui-même, l'Esprit dans la parole. Voyez, celui qui a fait naître le corps du Christ, mort, raide, couché là, mais ressuscité, réveillé, c'est moi qui étais mort. Si mort que le soleil s'est obscurci, que la lune a perdu son éclat. Tout le monde devait reconnaître qu'il était mort, mais aussi reconnaître qu'il était ressuscité. La dynamique l'a prouvé. Et s'il est l'époux, alors l'épouse doit venir du même chemin, car elle fait partie de lui. Et ainsi la parole doit s'accomplir en elle, comme en lui, doit se manifester. Si elle est autre chose que l'époux, alors ce n'est pas vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, elle est chair de sa chair et vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. Tout comme l'homme et la femme ne font qu'un. Voyez, comme pour Adam, elle a été prise de son côté, les deux mécaniques et dynamiques. Voyez, l'esprit de lui et la chair de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont réunis, voyez. Et l'Église en ce jour de Pâques doit en apporter la preuve, sinon nous échouons et n'apportons pas la preuve. Mais seulement c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait et qui a fait bouger ses 16 cylindres. Amen. Ce qu'il a dit dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. » Je lui donnerai. D'être tellement rempli que nul ne pourra lui résister. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce que signifie Pâques. Pâques, le message de Pâques. La mécanique et la dynamique ensemble. La mécanique a besoin de la dynamique. L'un est inutile sans l'autre. Vous pouvez sauter, vous réjouir, mais si vous niez la parole, cela ne marchera pas. Non. Vous pouvez tourner la manivelle encore et encore. Le piston ne bougera pas. Aucune étincelle ne jaillira. Voyez, l'un restera immobile, l'autre sera élevé et enlevé. Et tous deux viennent à l'assemblée, tous deux revendiquent le droit d'appartenir à l'épouse. Mais la question est de savoir si tous deux ont la mécanique et la dynamique. C'est vrai, c'est la seule chose qui y parvient. Peu importe la qualité de la mécanique, seule la dynamique y parvient. Et il faut que les deux soient réunis pour que cela fonctionne. Et quand elle explose, cette étincelle produit quelque chose comme une explosion et met tout en mouvement. Voyez, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même. C'est la résurrection. Ça, c'est la véritable puissance de Dieu. La mécanique et la dynamique. Eh bien, c'est l'Esprit qui donne la vie et qui vivifie, et c'est l'étincelle qui met le feu. Ce n'est pas l'essence, c'est l'étincelle qui enflamme l'essence. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous pouvez tout faire. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, Jean 15, 5, Jean 20, 21. Et ainsi, il était en lui. Vous voyez, c'est la même chose. Comme il m'a envoyé, ainsi je vous envoie, le même mécanisme. Et il faut la même dynamique pour le faire fonctionner. Et alors, les signes seront là, ils se produiront. Paul dit, l'évangile n'est pas venu seulement en parole. Pas seulement dans un mécanisme, mais avec l'étincelle qui met les choses en mouvement. Voyez, c'est le même esprit en nous. Et si le même esprit habite en nous, alors nous sommes rendus vivants pour la vie éternelle. Maintenant, voyez, le même esprit. Et puis dans Romains 8, relisons-le. D'accord. Je veux dire Romains 8, verset 11. Et si, c'est le problème, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de l'époux habite dans l'épouse, voyez, Dieu qui a créé le premier époux, il a fait en premier, et il était à la fois homme et femme dans l'esprit, dans le corps spirituel, et ce n'est qu'ensuite qu'il a formé à partir de la terre, de la poussière, et qu'il l'a créé physiquement, puis il l'a retiré de lui. Voyez, il ne prit pas un autre morceau d'argile pour Ève, il l'a retiré de lui. Il était les deux. Il avait deux esprits en lui, l'esprit masculin et l'esprit féminin. Mais ensuite, le féminin fut retiré de lui. Et pourtant, c'était la chair d'Adam et c'était la chair de sa chair. Vous voyez, il en est de même pour l'épouse. Elle est chair de sa chair et eau de ses eaux. Genèse 2, 23. Vous voyez, dans un instant, nous allons parler de ce qui se passe et de la manière dont cette transformation se produit. Cela se produit par l'Esprit. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, ce sont les prédestinés. C'est la semence qui est sur la terre. Ceux qui reçoivent la vie, beaucoup sont ici, mais ce sont des semences mortes. Regardez, mais il y a une semence. Dieu savait qu'il sera là où qu'il sera là. Les élus sont ceux qui doivent être vivifiés en premier par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint vient pour revendiquer les siens. C'est profond. Je voudrais que vous vous efforciez à le saisir. Voyez, ce n'est pas la pierre de rocher qu'il fera vivre, ni tout ce qui est là, mais la partie qui est sur la terre, la partie qui en fait partie. Tous les hommes ne l'acceptent pas, tous ne reçoivent pas, n'accueillent pas le Christ, mais seulement ceux que Dieu a prédestinés à la vie. Ils sont dans la poussière de la terre et le soleil vient les faire sortir. Voyez, les rochers ou la pierre et tout ce qui est là, rien de tout cela n'est amené à la vie, mais ce qui est destiné à la vie et qui est dans la poussière de la terre, le Fils a été envoyé, non pas pour rendre le sable vivant, mais pour ce qui est destiné à la vie, à savoir la semence. Et maintenant, le Saint-Esprit vient. Et je ne sais pas si les hommes le comprennent ou le reçoivent. Et peu importe ce qu'on dit, si les morts sont réveillés, si les malades sont guéris, etc., ils ne croient tout simplement pas, parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ce n'est pas pour eux. On est envoyé à ceux qui croient. Le message est destiné aux croyants. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont en Christ, pour eux, c'est la vie, car ils sont cette semence. Nous sommes dans cet âge d'aigle. Et comme je l'ai raconté, le jeune aigle a été placé sous la poule et a ensuite été couvé avec elle. Pour les poussins, c'était quelque chose d'étrange. Ses plumes étaient différentes. Il avait un aspect particulier. Et le reste des poussins ont bien compris que le jeune aigle était différent. Il n'aimait pas la nourriture qu'il mangeait. Ils avaient un étrange parmi eux. Rien ne lui plaisait là-bas. Il ne supportait tout simplement pas le goût. Ce n'était pas un poussin. Et la poule gloussa et dit, les temps merveilleux sont révolus. Les temps des miracles sont passés. Rejoins la communauté religieuse. Ça suffit. Tu es un bon garçon. Voyez, il suivit la poule, mais seulement jusqu'à un jour. La mère aigle savait qu'elle avait pondu tant d'œufs et qu'il en manquait un. Elle savait que l'aigle devait être quelque part et elle partit à sa recherche. Elle chercha ici dans les montagnes, dans les vallées. Elle chercha partout où le petit aurait pu se trouver car le moment était venu pour lui de sortir de l'œuf. Peut-être que les corbeaux sont venus le prendre, peut-être une buse. Mais quelqu'un a pris mon œuf et cet œuf est dans ma mémoire. Quelque part, j'ai un fils. Je dois le chercher. C'est ainsi avec Dieu. Il est le grand aigle. Il savait qu'il a une église. Peu importe ce qui est couvé là-dedans. Et ce qui sort, il a sa propriété. Un jour, l'histoire continue. La mère aigle a survolé le poulailler. Elle cherchait partout. Elle l'a trouvé. Oh, de reconnaître cette résurrection. Qu'il n'était pas un poussin, c'était un aigle. et on lui avait toujours appris à regarder en bas, dans le poulailler, vers les insectes et ainsi de suite. Mais maintenant, il entendit un appel et il leva les yeux et il regarda vers le haut. Là, il y avait une créature, un être puissant, plus puissant que tous les poussins du poulailler. Et soudain, il comprit, c'est ma mère. Et elle savait, c'est mon fils. Et il demanda, que dois-je faire? Bouge juste tes ailes. Elle savait qu'elle avait un fils quelque part. Et soudain, peu importe où il avait grandi, elle avait son fils quelque part. Dieu le sait. Alléluia. Il a une église élue, prédestinée. Il sait qu'il a des fils et des filles. Il a une épouse quelque part. Elle attend. Et le Saint-Esprit viendra sur elle. Et alors le tissage aura lieu. Il, lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un récit mystique, c'est la réalité. Quoi qu'on en dise, un aigle comprend tout de suite. Un aigle est un aigle. Il voit, il connaît, il reconnaît, il respecte et il réfléchit. Et il le reflète. Et si nous voyons non pas une dénomination, non pas une distinction académique, non pas le bon voisin, mais le Fils de Dieu, lui, l'image du Dieu invisible, avec sa puissance divine dynamique, répond à toutes les questions, lui le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est comme la mère et cherche son petit. L'aigle l'a reconnu et il a reconnu toute la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un aigle. Un aigle vient vers un aigle. La parole, avant la fondation du monde, prononcée à la parole prédestinée par la parole écrite à l'avance et ensuite cherchée jusqu'à ce qu'elle soit trouvée. Voyez, lorsque ce corps terrestre est rendu vivant par l'Esprit de Dieu, voyez, selon la parole de Dieu, voyez, comment y parvenons-nous? Comme le jeune aigle a demandé, comment puis-je monter jusqu'à toi? Voyez, ce n'était pas un poussin. Le jeune aigle le savait. Peu importe ce que les poussins disaient, il le savait. Et la réponse était, déploie tes ailes et tu monteras. La parole appelle la parole. Ce que je fais, vous le ferez aussi, vous qui croyez en moi, car parce que je vis et vous vivrez aussi. Et si l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts habite en vous, il vous donnera la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez bien. Vous comprendrez et vous saurez. Voyez, cela n'arrivera pas seulement. C'est déjà arrivé pour vous. Qu'est-ce que c'est? Il donne vie au corps mortel. En d'autres termes, il les ramène à la vie. Vous y êtes allé avec un cigare à la bouche ou une cigarette. Vous, les femmes, cheveux courts, ceci, cela. Et soudain, vous avez regardé et vous avez vu la parole et vous avez été rendu à la vie. Vous n'avez pas de pantalon court, pas de liqueur, pas de mensonge, pas de vol. Voyez, l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts soumettra aussi vos corps mortels qui sont faits de la poussière de la terre. Et cela conformément à la parole, non pas à une théologie, mais à la parole. Soumettra vos corps à la parole. Maintenant, vous dites, oui, en tant que femme, je peux porter des pantalons et tout ça. Alors, c'est fini. Tu verras, tu reconnaîtras, tu feras partie de la parole. Et tu ne diras pas, je veux te dire, Mon pasteur ainsi dit ceci et cela. Non, tu ne te soucieras plus que de ce que dit la parole. Si le pasteur dit autre chose, il ne nourrit pas les aigles, mais les poussins. Les aigles mangent de la nourriture d'aigle. Et la Bible dit ce qui est faux. C'est elle qui le dit, qui le révèle. Et si vous dites, les temps des miracles sont révolus, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, Dieu nous a dans ses pensées depuis toujours, depuis l'éternité. Il nous a dans ses pensées. Et si vous dites, c'est de la télépathie ou de la lecture de pensée, c'est un don de discernement. Ce sont des visions. Vous êtes des semences. Frère, il y a un cri dans ton cœur. Tu l'entends et tu viens et tu vois une graine qui germe par la résurrection du Fils. Vous émergez, une gerbe tissée est tissée sur terre. Les aigles ne sont pas des poussins des dénominations, non. C'est l'Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. La parole, la puissance de la parole habite en vous. Il rendra la vie à vos corps mortels. Maintenant, regardez très vite. Ces corps sont rendus vivants. Voyez, l'esprit qui voulait autrefois se promener et ainsi de suite, tout faire. Mais maintenant, vous êtes ressuscité. Vous êtes mort auparavant. Mais vous êtes mort auparavant. C'est pourquoi votre temple est devenu plein de cette dynamique. Pourquoi? Voyez, depuis le début, vous avez fait partie de la mécanique. Voyez, vous croyez avoir été transformé par la dénomination en parole. La dynamique. Voyez, si c'était de l'eau, il n'y aurait que des éclaboussures et des bégaiements. Voyez, mais alors, on dit seulement les temps des miracles sont révolus, la guérison divine n'existe pas, mais quand la puissance vient, quand vous entrez en contact avec elle, oh, alors vous êtes emporté comme par une dynamique. Si la puissance vient sur un poussin, c'est fini. Si elle vient sur un aigle, elle le met en mouvement. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Dynamique mécanique. Voyez, si vous êtes de vrais aigles, vous comprendrez. Permettez-moi de vous citer un autre passage de l'Écriture. Nous avons encore le temps dans Jean 5, verset 24, où Jésus dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. » Voyez, je marche dans la rue et je prends simplement ce qui est écrit, littéralement, sans la compréhension spirituelle. Le mot juste en grec dans l'origine, dans l'original, signifie celui qui comprend ma parole. Voyez, un ivrogne peut venir le long de la route et tenir la femme d'un autre dans ses bras, jurer, abuser du nom de Dieu, etc. Si on lui demandait, as-tu entendu la parole du prédicateur? Il dirait oui, bien sûr. Mais cela ne l'a pas aidé. C'est à propos de celui qui l'accepte, qui le comprend, qui le saisit, l'aigle. Peut-être voulez-vous d'autres passages de l'Écriture. Vous dites, frère Branham, oui, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Voyez, dans le cas du mariage et du divorce, comme le Saint-Esprit m'a tout dit, je suis venu et je l'ai dit exactement comme il me l'avait dit. La femme d'un prédicateur m'a sévèrement réprimandé. Elle a dit, je crois que vous prenez la place de Dieu ici. J'ai dit, non, chère madame. Elle a dit, eh bien, vous leur dites que leurs péchés sont pardonnés. Seul Dieu a le pouvoir de le faire, de le dire. Encore un pharisien, vous voyez. J'ai dit, peut-être, savez-vous que Jésus a parlé à Pierre? L'apôtre et lui a dit par révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est sur cela que je bâtirai mon église et je te donne les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déliras sur la terre. Voyez, la révélation de la parole. Le Fils de Dieu s'est révélé. Chair de sa chair. À qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Jean 20, 23. Eh bien, l'Église catholique prend cela et en fait quelque chose de différent par l'intermédiaire des prêtres, bien sûr. Ça, c'est humain. Il s'agit ici de la parole révélée spirituellement par laquelle cela se produit. Et puis, ils connaissent la différence entre le baptême dans le Père, le Fils et l'Esprit. Ils reconnaissent qui il était. J'ai parlé à un prédicateur et il m'a dit, frère Branham, j'appartiens à une certaine communauté pentecôtiste et eux aussi ont déjà commencé à distribuer ces choses rondes lors de la scène, les hosties. Et vous savez, le prêtre prétend avoir le pouvoir de transformer le vin en sang, etc. Et il s'agissait du baptême. C'était la préoccupation principale. Il a dit, « Penses-tu qu'une personne doit être rebaptisée au nom de Jésus-Christ après avoir déjà été baptisée dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit ?» J'ai dit, « Absolument. » J'ai dit, « Il n'a pas été baptisé du tout. Les titres ne sont pas reconnus. » Il a dit, « Mais pourquoi pas ?» J'ai dit, « Mais oui, écoute, dans Actes 10, 49, a-t-il dit, l'Esprit est déjà tombé sur Pierre. » Et j'ai dit, Pierre n'a-t-il pas immédiatement dit, quelqu'un peut-il leur interdire l'eau pour qu'ils ne soient pas baptisés? Et nous pouvons ensuite aller dans Actes 19. Voyez, ils n'étaient pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais seulement sous le baptême de repentance de Jean. Le sacrifice n'avait pas encore été tué. Voyez. Et il a demandé, pourquoi ont-ils dû être baptisés une nouvelle fois? Vous voyez, j'ai dit, l'homme qui détenait la clé du royaume des cieux a dit, je vous annonce qu'il n'a été donné aux hommes sous le ciel d'autres noms par lesquels ils puissent être sauvés que celui-ci, le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, pas de communauté religieuse, pas de hiérarchie, rien, mais nous savons qu'il est... Mais nous savons qu'il est la rose de Saron, le lys de la vallée. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Jéhovah Jiré, Jéhovah Rabba, Jéhovah Manassé, il est tout cela. Voyez la rose de Saron. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il s'agit du nom, le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem. Vous voyez? Et il dit, cela fait-il une différence? J'ai dit, monsieur, je voudrais vous demander, nous étions tous les deux assis à table. J'ai dit, nous sommes tous les deux en Arizona, nous vivons ici, nous connaissons nos concitoyens, notre maire, notre gouverneur, etc. Et si je te disais, frère, va signer pour notre repas et je signerai au nom du gouverneur de l'État de l'Arizona. Penses-tu qu'il accepterait un tel chèque? Eh bien, il a dit, oui, pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Pourquoi? Si je te disais, va signer pour ce repas au nom du gouverneur de l'État de l'Arizona. Et nous sommes citoyens de l'Arizona. Nous savons qui est le gouverneur, alors tu saurais que tu signerais au nom de Sam Gotthard parce que tu sais qui il est, Sam Gotthard. Eh bien, si tu comprends Père, Fils et Saint-Esprit qu'il s'agit du nom, tu sais comment il s'appelle et qui il est. Mes brebis entendent ma voix. Vous voyez? Ah, a-t-il dit, oh, c'est comme ça. Et ensuite, croirez-vous, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et si cette vie éternelle habite en vous, voyez, c'est déjà une puissance. Le jour de la Pentecôte, il y avait la mécanique et il croyait et puis vint la dynamique. Voyez, les amis baptistes disent, certains d'entre eux, nous l'avons reçu lorsque nous avons cru. Mais la question était dans Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant? Voyez, c'est seulement par la dynamique que la mécanique est prouvée. Il en était de même avec Jésus-Christ. Eh bien, d'accord. Vous qui étiez autrefois morts par vos péchés et vos transgressions, il vous a rendu à la vie. Par quoi? Par son esprit. Éphésiens 2, 5. Par l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts le matin de Pâques. Et il nous rendra aussi vivants en nous et en nous-mêmes et nous soumettra à la parole. Comment pouvez-vous prétendre avoir l'esprit et vous éloigner de la parole? Alors vous serez vivifié par autre chose. L'esprit vous vivifiera toujours par la parole. Vous êtes, peut-être avez-vous en partie de l'essence et en partie de l'eau dans le réservoir. Il doit y avoir 100% d'essence dans le réservoir, sinon ça ne marchera pas. Non, vous pourrez dire, je crois ceci, mais pas cela. Voyez, vous pouvez pomper et rien ne se passera ainsi. Voyez, mais si vous êtes d'accord avec chaque parole, c'est parce que c'est vrai. Voyez, alors que nous terminons cela comme par exemple une petite graine qui se trouve dans le sol. En fait, vous êtes déjà en partie ressuscité. Si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous êtes en partie ressuscité. Regardez, la graine qui est plantée dans le sol. Elle boit de l'eau et pendant qu'elle boit, elle pousse vers le haut. Elle devient de plus en plus comme la graine qui a été mise dans le sol. L'Église est venue par la justification, la sanctification et le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu passe à travers. Voyez, et maintenant nous le voyons du côté de l'Antichrist, comment tout s'épanouit. L'Église et aussi les individus, tout atteint son point culminant devant Dieu. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous grandissons dans la plénitude, dans la résurrection par son esprit. Voyez, nous buvons à la source de Dieu. Voyez, mais si vous versez de l'huile sur la semence, que se passe-t-il? Ou de l'eau qui est racise ou avariée, alors cela ne fera que nuire aux fruits. Est-ce vrai? Mais si vous prenez de l'eau de pluie, vraiment propre, et que vous arrosez les plantes. Laissez l'eau venir du ciel. Rien ne sera meilleur que l'eau claire. Si vous y ajoutez ceci ou cela, cela peut endommager les plantes, voyez. Si des produits chimiques y sont ajoutés, il en va de même pour les puits dans les dénominations. Mais si vous avez les gouttes de rosée de la gloire qui descendent, brillent sur moi jour et nuit. Jésus, toi, la lumière du monde. Alors, nous marcherons dans cette lumière, la lumière glorieuse. Viens là où les gouttes de rosée brillent dans la lumière. Viens, car c'est une lumière glorieuse. Et nous ne faisons confiance qu'au sang de Jésus-Christ. Voyez, qu'est-ce qui se passe avec votre esprit? Il est écrit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous êtes déjà en partie ressuscité et conduit par l'esprit. Mais il se manifeste de plus en plus. Voyez, à la Pentecôte, leurs corps ont été rendus vivants. Est-ce que je vous retiens trop longtemps? Je me sens bien et j'espère que vous aussi. Oh, c'est merveilleux. Voyez, d'un côté, ils étaient fatigués et épuisés. Ils étaient lâches. Ils s'étaient renfermés. Ils avaient peur. Ils pensaient, tous ces grands évêques, tous ces grands personnages, j'ai peur, je crains. Et tout à coup, la dynamique les a envahis. Oui, que s'est-il passé? Pas seulement qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais leur mécanisme a été rendu vivant. Leur corps, ils n'étaient plus lâches. Ils se sont présentés devant les gens et ont dit, hommes de Judée et de Jérusalem qui habitaient ici. Avant, il n'y avait que la mécanique. Maintenant, la dynamique était là. Hommes de Jérusalem et vous tous, écoutez mes paroles. Je ne suis pas Ces gens sont pas ivres, mais c'est, je vous montre l'écriture. c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce dont a parlé le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La dynamique dans la mécanique, je la répandrai dans la mécanique. Et vous n'aurez plus de crainte. Vous avez parfois peur qu'une femme se moque de vous. Et vous les hommes, vous avez peut-être peur d'être exclus des organisations. Si vous vous faites baptiser selon la Bible, vous devez d'abord aller dans la salle haute jusqu'à ce que la dynamique vienne, jusqu'à ce que l'esprit vienne. Ils sont devenus différents. Ils sont devenus un peuple transformé. Ils ont été rendus vivants, passant de la vieille vie d'un lâche à une nouvelle vie comme celle du lion de la tribu de Judas. Ils sont allés et n'ont pas eu peur. Ils ont été jetés au lion. Ils ont traversé des épreuves. Ils ont traversé des persécutions. La dynamique a mis la mécanique en mouvement et a rendu leur corps mortel vivant. Voici encore une preuve. Il y en a encore plus ici. Vous savez, ils ont été rendus si vivants que même leur langage a été transformé, changé. Leur langage a été renouvelé. C'est ce que dit la Bible. Voyez, leurs corps ont été rendus si vivants, leur voix a été rendue vivante, leur esprit a été rendu vivant, leur vie a été rendue vivante. Ils ont été rendus tout à fait vivants. Ils voulaient parler des langues humaines et ils ne le pouvaient pas. Puis ils ont commencé à parler dans d'autres langues, dans une langue céleste. Voyez, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh alléluia, alors il rendra la vie à vos corps mortels. Vous ferez des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. C'est une puissance vivifiante, voyez. Et quand on dit « viens ici et tais-toi », on dit « taisez-vous, taisez-vous ». Vous êtes des aigles, vous savez où est votre place. Vous n'êtes pas des faucons, vous n'êtes pas des buses. Non, ils se sont nourris de choses mortes. Non, vous vous élancez, ils disent « voici un bon repas ». Vous dites « pas pour moi ». Non, votre désir a changé, votre appétit a changé. L'homme ne peut pas vivre de choses du monde, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est rendue vivante pour tous les aigles. Amen. Il a ressuscité le Christ d'entre les morts et vit dans votre corps mortel. Vous vivez en sa présence. Voyez, vous devez le reconnaître. Vous n'êtes pas des buses, vous êtes des aigles. Fini les choses du monde, vous êtes les fils et les filles de Dieu. Voyez, vous avez une fête à la source de Dieu. Les choses du monde sont finies. Vous êtes des aigles. Vous avez la manne fraîche. Voyez, et vous devez être rendu vivant pour en avoir l'appétit. Voyez, lorsqu'ils ont été rendus vivants, ils ont parlé dans de nombreuses langues sous le ciel. Voyez, oh, ils n'ont pas dit, je ne sais pas si je peux y croire ou non. Tout à coup, l'audace du lion de la tribu de Juda est entrée en eux. Cet aigle est venu et a appelé les siens et ils l'ont suivi. Voyez, et il y en aura d'autres qui donneront leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit. Cela se manifestera dans l'épouse. La puissance vivifiante viendra. Sortez des dénominations et des statues mortes pour la parole vivante du Dieu vivant pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Regardez, faites attention. Ils ont été rendus si vivants par cette puissance vivifiante. Écoutez bien, je veux vous montrer quelque chose. La puissance vivifiante n'était pas seulement dans leur âme, non. Le dynamisme est entré pour animer la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Soudain, ils se mirent à parler d'autres langues. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de résurrection de Jésus-Christ qu'ils imposaient les mains aux malades. Et quand ils les posaient sur les malades, ceux-ci guérissaient. je rendrai la vie à vos corps mortels. Et les malades ont été guéris par l'imposition des mains. Et l'Esprit a lié leur communion à Dieu de telle sorte qu'ils sont tous venus en présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Vous voyez, et même les morts ont été ressuscités. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je me sens vraiment bien. C'est vrai. Rendu à la vie. Vivifié, non seulement la résurrection pour lui en tant que Seigneur, mais aussi pour tous ceux qui y participent, qui sont des semences prédestinées. Il rend nos corps mortels vivants. Ils imposent les mains aux malades. Ils prient. Ils ont des visions. Ils ramènent les morts à la vie. C'est vrai. Leur corps mortel a été rendu vivant. Vous voyez? Si c'est le cas, alors ces signes suivront. Et cela sera là. La puissance vivifiante, rendue vivante, en présence de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voyez, il dit, je leur donne la vie éternelle. Le mot grec zoé, il se déplace en vous et donne même vie à vos pensées et vos sentiments. Comment pouvez-vous dire que l'Esprit habite en vous alors que vous avez tout fait et que vous pensez que c'était juste? Voici votre preuve. Si l'Esprit qui était en Christ est en vous, il vous rendra vivant par la parole, car il est la parole. Il vous rendra vivant dans la parole, et tout ce qui vous éloigne de la parole n'est pas l'Esprit du Christ. Faites attention à ce que vous faites, jusqu'à ce que vous soyez transportés dans la parole. Mes brebis entendent ma voix, et elles vivent à travers chaque parole. J'ai parlé à ma vieille mère, qui est déjà partie. C'était une femme étrange, à moitié indienne, mais c'était quelqu'un qui ne rêvait presque pas, peut-être 3 ou 4 rêves dans toute sa vie, mais chaque fois ce rêve se réalisait. Je sais que lorsque j'ai commencé à prêcher il y a de nombreuses années, je prêchais ici, dans cette communauté religieuse, et elle a rêvé que je me tiendrais ici et que je verrais 3 marches à côté de l'estrade, et je leur ai dit, vous devez monter ces 3 marches avant de pouvoir monter sur le chemin élevé. Et ce chemin menait aux portes du ciel, aux portes de perles. Et si ce n'est pas là mon message aujourd'hui, justification, sanctification, baptême dans le Saint-Esprit, j'en suis convaincu et je dois le dire, chaque personne doit passer par ces 3 étapes. Et vous savez à quoi ressemblaient les femmes il y a 35 ans. Et une dame est arrivée avec des talons hauts et j'ai dit, madame, vous ne pouvez pas marcher ici, ma sœur. Et elle m'a regardé et a dit, ne l'écoutez pas. Il a perdu la tête. Je vais vous montrer, je suis rempli du Saint-Esprit. Je peux marcher ici. Et je n'ai pas pu l'arrêter. Elle est montée et a marché, s'est retournée et a dit aux autres sœurs, ne vous ai-je pas dit que je pouvais marcher ici? Et comme le dit le prophète Ésaïe, elles ont étendu leur cou, voyez, et ont dansé d'avant en arrière pendant qu'elles marchaient. Les filles de Sion le font dans les derniers jours. Et elles a emprunté ce chemin élevé. Et le chemin est devenu de plus en plus étroit. Et soudain, elle a dévié de ce chemin. Et est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Et ma mère a dit qu'elle avait entendu le plus grand cri qu'elle ait jamais entendu de la part de cette femme. Vous voyez, elle a tout suivi. Mais il y a une seule parole qu'elle n'a pas voulu suivre. Les femmes pentecôtistes peuvent être sauvées, sanctifiées et baptisées de l'Esprit et pourtant être laissées pour compte. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Elle pensait pouvoir passer à travers, mais elle n'a pas entendu, elle n'a pas écouté. Vous voyez, et je lui ai dit ce qu'il attend. Il a envoyé des apôtres, des prophètes, etc. La parole a été écrite, mais Ils n'écoutent pas. Maintenant, écoutez. La puissance vivifiante, les sentiments, la pensée du Christ est alors en vous. Voyez, lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vous a aussi ressuscité et vous a rendu vivant avec lui. Car vous étiez déjà dans ses pensées en tant que attributs, caractéristiques. Dieu a déjà vu tout ce qui était en lui. Quand Dieu a regardé le corps, vous savez que l'esprit l'avait quitté à Gethsémani. Il était Dieu. Bien sûr, Dieu a oint la chair humaine. Vous voyez, en tant que Dieu, il n'a pas pu mourir. Il n'aurait pas eu besoin de le faire. Mais voyez, il est allé là-bas avec vous, en lui-même. Voyez, Dieu n'avait pas encore retiré l'épouse de l'époux jusque-là. Lorsque Dieu a regardé le corps du Christ, c'est arrivé. Tous ont été rachetés dans ce seul corps. Ils ne font qu'un. C'est la même chose, la même parole. La même parole qui parlait de l'époux parle de l'épouse. Comment l'épouse peut-elle échouer et ne pas tout manifester comme l'a fait l'époux? Il est même ressuscité des morts pour que l'épouse puisse faire de même. Ne l'a-t-il pas dit? Ne doit-il pas revenir? Malachie ne doit-il pas se manifester? Et toutes les choses qui ont été prédites jusqu'à ce que nous puissions entrer dans ces choses, entrer pleinement dans la parole. Je sais que je vous retiens longtemps, mais je vais bientôt en finir. Quelle chose parfaite! Faites attention. Mais Dieu a prévu, a vu à l'avance l'épouse dans l'époux. Alléluia! Voyez, pour sauver sa femme, comme Adam, il a dû aller avec elle. Adam savait ce qu'il faisait. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Adam sortit avec sa femme. Jésus a pris la place de sa femme et a été fait péché pour elle. Il est devenu elle, afin qu'elle puisse devenir lui. Il a pris votre place afin que vous puissiez prendre la sienne. Quel amour, quelle communion. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Continuons. Eh bien, l'expérience de la Pentecôte aujourd'hui et la venue du Saint-Esprit, promis pour ces derniers jours, c'est comme un contrat notarié pour une fortune. Voyez, vous avez l'affaire là, mais vous devez faire attention à ce que quelqu'un d'autre ne l'apprenne. Mais au moment où vous avez le contrat entre vos mains, peu importe combien de personnes seraient encore intéressées par l'affaire, vous avez le contrat. Et un homme qui dit qu'il croit en la parole. Et puis, la parole est une chose et l'esprit est la compte pour l'autre. Et tout ce qui y est promis vous appartient. Déjà, le contrat a été conclu avec vous. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, l'affaire deviendra définitive, entre en vigueur et vous appartient. Voyez, vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes plus coupable de péché. Vous avez cru et le Saint-Esprit est venu et a confirmé que tout que je l'ai fait, mon père, ma grand-mère, mes enfants ou qui que ce soit d'autre, mais quand cet acompte divin arrive, tout est pardonné. Alors, vous avez quelque chose entre les mains. Amen. Et aussi certain que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est aussi certain qu'il fera revivre nos corps mortels il les vivifiera en nous donnant le même Saint-Esprit comme il a promis pour les derniers jours. Comme c'est merveilleux, mes frères, comme c'est glorieux d'être racheté par le sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient confirmer que Dieu nous a acceptés dans sa grâce en raison de la prédestination. Qui peut encore me faire peur? La vie éternelle, il a les clés de la mort et de l'enfer. Même la mort ne peut pas vous faire de mal. Bon, continuons rapidement. Même la mort est finie, est réglée, tout est fini. Gloire. Oh, je me sens bien. Oh, un acompte, une preuve. Savez-vous ce que cela signifie, mes frères? Rien ne peut vous l'enlever. Amen. Je suis propriétaire. Amen. Vous voyez, j'ai le titre de propriété. Vous voyez, et j'ai la certitude d'avoir été crucifié avec lui, d'être mort, d'avoir été enterré, enseveli et d'être ressuscité. Et il a été fait péché pour que je puisse devenir un fils. Et alors, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Bon, peut-être encore 10 minutes. Voyons rapidement comment l'Esprit vivifie pour que vous compreniez. Cette puissance vivifiante est mon sujet. Voyez ce qui leur est arrivé à la Pentecôte. Comment cette puissance vivifiante a agi. Faites attention à ce qui est arrivé à Étienne. Étienne ressentit la puissance qui vivifie. Il en était rempli. Il n'avait pas peur. Il a dit, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Vous résistez au Saint-Esprit comme vos pères l'ont fait. Actes 7, 51. Lequel de vos prophètes, vos pères, n'ont-ils pas lapidé ou tué? Il était plein de puissance de résurrection. Ils voulaient se débarrasser de lui, ils l'ont lapidé. Et les pierres lui sont tombées dessus. Mais il vit le ciel ouvert. Il y avait une puissance de résurrection. Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus, ou le Fils de l'homme, à la droite de la majesté. Quelqu'un d'autre qui avait cette puissance qui vivifie, Philippe, il avait une grande réunion en Samarie. Des démons ont été chassés, des malades ont été guéris et l'Esprit lui a parlé. Oh, la dynamique est descendue et a dit, quitte le réveil. Oui, que diront les prédicateurs? Cela n'a pas d'importance. Il était plein d'une puissance qui vivifie. Il avait de l'essence dans le réservoir. Le dynamisme était là. Va dans le désert. Et il trouva l'eunuque et le baptisa au nom de Jésus-Christ. Un homme qui a porté le message ensuite en Éthiopie. Il était obéissant à Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, faites-le. Vous voyez? Étienne, faire cette grande chose. Et ensuite, Philippe et tous les autres. Vous voyez? Il était obéissant ici au commandement de Dieu. Il a quitté la grande réunion et est allé baptiser cet eunuque obéissant à Dieu. Et il était si plein de puissance de résurrection qu'il a été enlevé par cette puissance d'un endroit et amené à un autre. Philippe a été rendu si vivant, peut-être 240 kilomètres plus bas. Il était si plein de puissance, de résurrection, qu'il a été enlevé par cette puissance d'un endroit et amené à un autre. Ô Église du Dieu vivant, nous ne pouvons plus rester assis ainsi. Nous devons prier et être remplis jusqu'à ce que nous soyons rendus vivants par la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Amen. Oh, pardon. Voyez, si nous voulons entrer dans l'enlèvement, voyez, par exemple, lorsqu'une mère ne touche et ne donne à son enfant que des choses artificielles, il n'y a rien de bon là-dedans. Non, revenons à la vraie nourriture, rien d'artificiel, mais à la vraie nourriture. Vous êtes libre, quoi que les gens disent de vous ou contre vous. Vous êtes libre. La puissance qui vivifie, vous vous élevez comme un aigle au-dessus de tout. Vous êtes transporté dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Oh Philippe, rendu à la vie. Maintenant, quelqu'un d'autre. Un homme nommé Enoch. Il a marché environ 500 ans avec chaque parole de Dieu. Pas une seule fois la parole ne dit quelque chose contre lui. Il était tellement rempli de la puissance qui vivifie. Il n'avait pas besoin de mourir. La dynamique est venue dans la mécanique et il a été enlevé. Vous voyez? Les autres pensaient qu'il était un vieil homme. Mais la puissance de la résurrection produit tout. Elle rendra vos corps mortels vivants. C'est une puissance vivifiante. Je fais tout ce que Dieu me dit. J'exécute tout ce qu'il me commande. Plein de la dynamique dans la mécanique. De sorte que cela se produit à l'instant même. Et il quitta la terre et fut élevé, enlevé. Genèse 5, 24. Maintenant, faites attention. Élie, le grand prophète, un homme de son temps. Veuillez m'excuser, frères et sœurs. Il a dû mener son combat contre les femmes fardées, maquillées, contre les Jézabel, contre les Akab. Et il semblait que personne ne le soutenait et il se tenait là comme s'il allait être englouti. Mais un jour, il se fatigua. Il devint vieux. Il dit, je ne peux plus continuer. Je n'en peux plus. Mais alors, la puissance qui donne la vie, qui vivifie, est venue sur lui, est venue en lui. Il regarda au-delà du Jourdain. Oh, mon Dieu, je peux déjà voir l'autre côté. Il était plein de la puissance qui donne la vie, qui vivifie. Et quand il leva les yeux, il vit des chars et des chevaux. Et il fut enlevé, amené à la maison, sans mourir. Une puissance qui vivifie. Le char et les chevaux descendirent du ciel et il fut enlevé. Puis, le suivant qui le suivait a ramassé le manteau. Eh bien, mes chers amis, vous, Église, il a fait deux fois plus de miracles. Élisée, un signe pour le Christ et pour l'Église. Voyez, il avait une double mesure. Jésus a dit, Jean 14, 12, vous ferez les choses plus grandes, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Il était tellement plein d'une puissance qui vivifie. Voyez, et il a vécu environ 80 ou 90 ans, ou bien 90 ans, et il est mort. Élisée, il est mort, bien sûr. On l'a enterré. On l'a mis dans une tombe, mais la puissance de la résurrection ne l'avait pas encore quitté. Plusieurs années plus tard, lorsque sa chair fut décomposée par les eaux et qu'un jour ils n'eurent plus le temps d'enterrer un mort ailleurs, ils le jetèrent dans cette tombe et il en ressortit et reprit vie. Qu'était-ce ? Il rendra vos corps mortels vivants. Même si vous êtes mort, décomposé dans la tombe, quelque part se trouve cette puissance qui vivifie. Alléluia. Oh, lui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra nos corps mortels vivants. Élisée, voyez, un homme mort, un prophète, plein de cette puissance qui vivifie, gît dans la tombe et se décompose. Et le mort est jeté dedans et reprend vie. Voyez, il aurait pu encore imposer les mains aux malades. Amen, vous l'avez. Rappelez-vous que nous sommes la chair de sa chair, Jésus-Christ. La chair de sa chair, les os de ses os. Il n'y a pas d'autre moyen si nous voulons ressusciter. Non, Pâques est plus qu'une tradition. C'est maintenant pour nous, afin que nos corps soient rendus vivants, transportés dans des lieux célestes. Vous pourriez pourrir dans la terre, ne laisser qu'une cuillère à café, mais vous ressusciterez le corps sera de nouveau là. Nous avons la certitude que nous ressusciterons, car nous avons la vie éternelle. N'ayez pas peur, ne craignez pas, a-t-il dit. Paul a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ici se trouve la puissance de la résurrection, la puissance qui vivifie. Grâce à Dieu, remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant pour toujours, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Messie, le oint, telle est son épouse. Ils sont les oints. Reconnaissez que la mort n'a pas arrêté la puissance qui vivifie. Si vous l'avez, elle est éternelle. Rien ne l'arrêtera. Rien ne peut être fait. Vous pouvez vivre, mais vous ne pouvez pas arrêter sa vie. Moïse était plein de cette puissance de résurrection, de cette puissance vivifiante. Un prophète à qui la parole est venue dans son temps, il faisait partie de la parole de son temps. Et après avoir été mort pendant 800 ans, il est apparu avec Élie sur le mont de la transfiguration. La puissance vivifiante est là. Même la mort ne peut pas changer cela et vous l'enlever. Vous pensez qu'il est enterré et qu'il se décompose. Non, la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie est là. Vous dites, est-ce vraiment vrai, frère Branham, après 800 ans? Oui, si vous croyez au passage de la Bible dans Matthieu 27, verset 51, vous verrez que tous ceux qui croyaient qu'il viendrait et qui dormaient dans la poussière de la terre, mais ils faisaient partie de lui. Et en partie, ils avaient déjà la vie grâce au sacrifice des agneaux qu'ils avaient offert. Mais l'esprit des agneaux ne pouvait pas revenir sur eux. Mais l'esprit de l'agneau de Dieu pouvait revenir sur nous. Oh, à l'époque, un agneau était sacrifié en tant que symbole. Maintenant, nous avons la chose elle-même. De quoi avez-vous encore peur? Voyez, et ceux qui n'ont eu qu'une partie de sa résurrection, comme Job, par exemple, dans son temps, tout lui a été pris à cause de cette épreuve qu'il a traversée. Le diable a dit, remets-le entre mes mains et il se séparera de toi. Et il lui a vraiment tout pris, même sa femme s'est retournée contre lui, etc. Voyez, et ses amis et tous les autres. Et il était si misérable. Et sa femme a dit, détourne-toi de Dieu et meurs. Mais il s'est accroché à ce qu'il avait. Il dit, je ne suis pas un pécheur. J'ai offert mon sacrifice. Amen. Et il savait où il en était. Il s'en tenait à la parole de Dieu, à ses convictions, peu importe ce que les autres disaient. Et puis il a dit, tu parles comme une femme insensée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Nu je suis venu au monde, nu je repartirai. Regardez ce que signifient ces choses. Même si les membres de l'assemblée se retournaient contre lui et tout, comme un misérable, il était assis là. On le considérait comme quelque chose de mal. Mais soudain, il se dressa, il se tena sur la parole. Le tonnerre se mit à gronder, les éclairs à illuminer et il se leva et dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et même si mon corps est détruit et décomposé, je verrai Dieu lui-même qui sera le dernier à fouler cette terre de ses pieds. Et si je suis complètement détruit. Vous savez, il parlait des vers qui viennent dans les corps. Ils sont déjà en vous. Ne vous inquiétez pas. Voyez, vous faites déjà partie de la chose. Et quand Job a dit, même si les vers me détruisent, je verrai Dieu dans ma chair. Gloire. Alléluia. Matthieu, ce grand écrivain, écrit au chapitre 27, verset 51, après sa résurrection, beaucoup des saints de l'Ancien Testament qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent et apparurent à beaucoup dans la ville. La puissance qui vivifie, voyez, même s'il ne restait plus qu'une cuillère à café de poussière, d'Élie et de Job, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si son esprit habite en vous, s'il habite en vous par son esprit, il vous rendra aussi la vie, il vous vivifiera. Voyez, je vois comment vous posez les passages de l'Écriture. Vous les écrivez. Pourquoi n'écrivez-vous pas encore 1 Thessaloniciens 4, verset 16? Comme c'est merveilleux. Dieu ramènera avec lui les saints qui se sont endormis en Christ. Les saints dans la tombe, ils reposent comme Élie, d'autres comme Élisée. Certains ont déjà été ressuscités. D'autres sont encore dans la tombe. Mais la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront. Les premiers. Et nous qui vivons et restons vivants, nous serons changés et enlevés avec eux et rencontrerons le Seigneur dans les airs. La même puissance qui vivifie, qui était en ses prophètes, leurs noms sont même similaires. Élie, Élisée. Voyez-vous, l'époux et l'épouse. L'un est le Seigneur Jésus et l'autre est la Dame Jésus. Les deux sont identiques. Lui et elle. Élie, regardez maintenant. Élie a été enlevé comme l'Église. Et Élisée est resté jusqu'à la résurrection. Regardez comme un oiseau. Il a besoin de deux ailes pour garder l'équilibre. L'Église a donc besoin de cet équilibre. Ces deux prophètes, voyez, et ceux qui sont déjà morts et ceux qui seront encore en vie à ce moment-là de l'enlèvement. Oh, alléluia, nous nous envolerons, car la puissance qui donne la vie est toujours là. Pensez-y, faites attention, qui vivifie est encore là. Faites attention à voir ce qui donne vie à ces choses. Faites attention à ce qu'est la puissance vivifiante en ce jour. Je crois que notre Seigneur l'a dit, ainsi que Paul. Il a dit, tout ce que le Père m'a montré, je vous le donne et je ne retiens rien. C'est grâce à la puissance qui vivifie. Des malades ont été guéris, voyez. Des visions, des morts sont ressuscités. Les malades ont été guéris. Je ne sais pas si vous connaissez le petit verse. Je chasse avec lui et c'est un très bon ami. Et je l'ai vu avoir une mauvaise oreille et je lui ai demandé une fois, comment vas-tu? Et j'ai demandé, qu'est-il arrivé à ton oreille? Et il répondit, oui, j'ai été ici et là. Et il a dit, j'ai peut-être une idée, et j'ai pris ma main, je l'ai mise dans la sienne, et j'ai dit, tu as un cancer. Qu'est-ce que c'est? 2 jours plus tard, il ne restait plus qu'une cicatrice complètement guérie. L'oreille aurait été dévorée, mais la puissance qui vivifie. Un jour, alors que j'étais moi-même accablé de soucis, et que je pensais, tu as maintenant 50 ans, si tu veux encore faire quelque chose pour le Seigneur, dépêche-toi de le faire. Tôt le matin, la puissance qui vivifie est venue et j'ai regardé de l'autre côté. Et il a été dit, tout ce que tu as aimé et qui t'ont aimé, je te les ai donnés ici. La puissance qui vivifie. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, a été rempli d'une puissance qui vivifie. Ésaïe et tous les autres. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rappelez-vous, la puissance qui donne la vie est venue. Elle est même venue pour ouvrir les 7 sceaux. Est-ce l'intelligence d'un homme? Non, la puissance qui vivifie, la puissance vivifiante de Dieu, la puissance vivifiante de Dieu, c'est elle qui a prédit des choses. Vous voyez, et Dieu a témoigné, et l'ange du Seigneur, la colonne de feu qui est descendue, le monde a dû témoigner que c'était vrai. Il ne savait pas ce que c'était. Et nous regardons l'image et voyons notre Seigneur. Voyez, il est le sceau, car toute la parole de Dieu est le Christ, et le Christ est le sceau. Voyez, lorsqu'il a été ouvert, révélé, dévoilé, voyez, et les sept anges de l'Église, ils sont là, ils sont dans cette image, ils sont dans sa main droite. Ici, nous le voyons comme le juge final, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Quelle démonstration! Puissance vivifiante. Oh, qu'elle revienne. Elle nous fait passer de la mort à la vie. Elle nous permet de distinguer ce qui est mal, ce que vous êtes censé avoir fait, ce que vous n'êtes pas censé avoir fait. Tout cela vous sera révélé. Notre Seigneur Jésus était si plein de cette puissance qui vivifie. Il en était plein. Il a dit, détruisez ce corps et je le ferai ressusciter dans trois jours. Détruisez ce corps, ce temple, et je le reconstruirai dans 3 jours. Il savait que cela était écrit à son sujet. C'était une prophétie, la parole de Dieu qui ne peut pas faillir. La parole disait, je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption, ni que son âme reste dans le séjour des morts. Il savait que la puissance qui vivifie le ferait sortir de là. Pas une seule cellule de son corps ne pouvait être détruite. C'était une prophétie. La parole de Dieu. Et si c'est la prophétie de la vraie parole de Dieu, elle ne peut pas échouer. Et comme il est tel qu'il est ressuscité, nous sommes déjà ressuscités avec lui. C'est pourquoi il a dit, ne craignez pas. Il est écrit, lorsque l'esprit qui était en lui, sera en nous. Il vivifiera nos corps mortels. N'ayez pas peur, mes amis. Le Fils est venu. Ne craignez rien. Regardez la transfiguration. Voyez, là était Élie. Et là se tenait Moïse. L'un représentait un groupe, l'autre. Voyez, ce que nous voyons ces derniers jours les choses qui sont promises, Jean 14, 12, certainement. Allez, j'en dis, prétends-tu avoir de la puissance? Non, nous prétendons seulement être sur la montagne de la transfiguration. Voyez, comment ils étaient là sur le mont de la transfiguration. Ils ne disaient pas, Moïse, tu es ceci et cela, et moi je suis ceci et cela, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Ils voyaient Jésus glorifié. Ils ne voulaient rien de plus. Et ils voyaient Jésus transfiguré. Nous ne voulons pas être des personnes importantes. Et ce que les gens disent de nous ne nous préoccupe pas. Cela ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas de notre vie, mais de la sienne. Pas de notre puissance, mais de la sienne. Et nous voulons qu'il soit glorifié et qu'il soit glorifié. Et qu'il soit glorifié par nous à travers sa résurrection, comme cela s'est produit autrefois. Avez-vous compris? Notre désir n'est pas d'être honoré, ni d'être quelqu'un d'important, ni de faire quoi que ce soit dans la réunion, dans l'assemblée, d'enseigner à l'école du dimanche, ou quoi que ce soit d'autre, ni de faire des pique-niques, ou ceci ou cela. Notre désir est de le voir, lui, glorifié, pas par quelque chose qui nous est propre, mais en apportant la preuve dans notre vie qu'il peut vivre à travers nous, que je peux me retirer et que vous ne me verrez plus, mais que vous verrez seulement Jésus glorifié. C'est notre désir sincère et cela nous donne une puissance qui vivifie. Nous sommes avec lui, la chair de sa chair, son épouse. Et nous voyons en nous le même message confirmé, à savoir qu'il est maintenant aussi le ressuscité d'entre les morts. Personne ne peut nous contredire. nous sommes rachetés par lui et ressuscités avec lui. C'est cela, Pâques, d'être ressuscité avec lui. Maintenant, nous avons son esprit. Le contrat, tout est entièrement payé. J'espère que vous comprenez. Ce n'est pas fait maintenant, c'est déjà fait. C'est accompli. Ce n'est pas moi qui le fais, il l'a fait pour moi. Maintenant, vous dites, oui frère Branham, quoi qu'on dise de toi et tu es tellement déformé par les gens. Cela n'a aucune importance. Ce qu'on dit de moi, ça n'a aucune importance. Il le sait, je veux me retirer pour qu'il puisse lui-même le faire et être tout. Vous êtes destiné à cela. Tous ceux que le Père m'a donné viendront avec cette preuve qu'il a donnée. Oh, comme c'est merveilleux. Oh, ce matin de la résurrection. Quand les cordes de la mort seront rompues et que nous en sortirons, alléluia, ressuscités, nous sommes devenus une partie de lui. Ça, c'est le mystère révélé de Pâques, la vie après la mort. Nous qui étions autrefois morts dans le péché et la transgression, nous sommes maintenant rendus à la vie. Le sceau de Pâques a brisé le sceau romain, car c'est là-bas que le sceau a été brisé et s'est révélé. Et Dieu, par son esprit, a même révélé et ouvert les sceaux maintenant et nous a rendus vivants. Oh, page après page. Maintenant, il chante. Nous devons ressusciter. Alléluia. Amen. Nous ressusciterons au matin de la résurrection. Ce matin où les barrières seront brisées, nous ressusciterons. N'êtes-vous pas heureux? Je suis si heureux. Il y a si longtemps, dans une cabane à charbon, j'ai vu une nouvelle, j'ai expérimenté cela. J'ai vécu cela. Je devins une nouvelle créature, naître de nouveau par la puissance vivifiante. Le Fils s'est levé. J'ai raconté l'histoire d'un pêcheur. Il pêchait sur la côte ouest. Et vous savez que l'on y pêche surtout le saumon. Avec son frère Eddie Biskel et d'autres qui avaient déjà pêché là-bas. Mais c'était sans doute un songe que cet homme avait, qu'il était simplement poussé par le courant et il s'est énervé et a dit, nous allons être poussés vers la mer. Et quelqu'un d'autre a dit, assieds-toi et reste calme. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Laisse d'abord le soleil se lever. Alors nous serons où nous sommes. Voyez. Si vous êtes méthodiste, baptiste, attendez que le soleil se lève. Alors vous verrez où vous vous trouvez. Il est la parole. Voyez, jusqu'à ce que la parole soit manifestée. Voyez, traversant la mer, nous voyons la gerbe est tissée. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Combien d'entre vous restent pour la soirée? Vous pouvez revenir à cette heure et demie. Inclinons la tête. Y a-t-il quelqu'un ici ou plusieurs personnes qui n'ont pas encore cette puissance qui vivifie en eux? Le Fils s'est levé, vous avez entendu les bandes sonores, mais vous n'avez pas encore été rendu vivant. Vous femmes, vous hommes, êtes-vous prêts à obéir à chaque parole écrite? Oh, il y a quelque chose de dangereux ici. Et si vous étiez une semence morte et qu'il n'y avait pas de vie en vous, mais quelque chose est en vous qui vous dit, je veux me lever aujourd'hui, je veux sortir de la situation dans laquelle je me trouve, de la mort, de la saleté, je suis poussé vers la mer, je veux lever la main et demander, prier pour moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous ne pouvons pas faire d'appel à l'autel. Il y a déjà des gens devant l'autel. Je ne suis pas vraiment pour de toute façon, mais à moins que la graine ne germe et ne donne vie. Le baptême d'eau peut être comme une rosée tombée du ciel qui tombe sur une graine et tombe aussi à côté. Mais un vrai baptême d'eau signifie la mort à toi-même et à toutes les doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu et qui sont enseignées dans les dénominations. Et si vous le pensez du fond du cœur, alors faites attention à ce qui vous arrive avec le baptême. Vous êtes baptisé pour le pardon de vos péchés et vous êtes tissé comme la gerbe, comme le fruit des prémices, donc comme les premiers fruits. Le Saint-Esprit vient car la promesse s'applique à vous et à vos enfants. Dieu est Père, j'ai parlé longtemps et j'ai épuisé le temps des gens. Il semble que je ne puisse plus m'arrêter. Je ne peux pas m'en éloigner. Nous vivons dans un monde mourant, parmi des gens mourants, avec un message vivant et la preuve de la résurrection. Oh Dieu, nous sommes mortels ici. Mais que se passera-t-il si nous laissons passer cette occasion? Nos âmes sont bouleversées. Beaucoup entendent ce message. 200, 300 ont levé la main. Ils veulent croire. Comment pourraient-ils lever la main ainsi? Oh Dieu, ce moi, cette femme de Job qui se tient là. Mais Seigneur, laisse entrer ce Job, ce croyant aujourd'hui, qu'il meure et soit enterré entièrement comme lors du baptême, que la rosée du ciel vienne, que chaque péché soit pardonné et effacé. Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, au nom de Jésus-Christ. Père, que ce soit ainsi, que les malades sortent guéris, que les infirmes fassent l'expérience de la puissance du Saint-Esprit et soient guéris, et qu'ils soient guéris, lavés et purifiés, et que ceux qui ont la mécanique, qui reçoivent la dynamique, rendant leur corps mortel vivant. Alors nous serons de véritables fils de Dieu, un amour véritable. Nous aurons tout et vivrons et un Christ ressuscité. Un corps réuni en tant qu'épouse, le représentant ici sur terre. Je n'ai prêché que la parole. Acceptez-la. Je prie au nom de Jésus. Amen. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Êtes-vous satisfait de votre part de la résurrection de Pâques? Vous êtes inclus, cher enfant, comme Paul ou Jean l'auraient dit. Mais l'amour, je vous aime. J'ai traversé des chemins tumultueux pour venir ici, pour vous parler. Je suis venu du désert à travers les tempêtes de neige. Je suis venu en avion pour que nous puissions être ici. Nous nous aimons, nous faisons partie les uns des autres. Ne laissez jamais Satan vous dire le contraire. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes des membres et ensemble, nous sommes des citoyens de son royaume et nous avons part à la résurrection. Et maintenant, vous êtes déjà ressuscités. Quand Dieu l'a ressuscité, il vous a ressuscité. Maintenant, vous allez entrer dans une vie de floraison parfaite en ces derniers jours. Vous l'avez déjà en partie. Votre âme est déjà transformée, changée. Votre corps est soumis à l'obéissance et la parole est dans l'Église et la vie est dans la parole. Vous êtes rendu à la vie. C'est Pâques avec Jésus. Pâques avec Jésus. Et toi, Pâques avec toi et moi, nous tous, Jésus, toi, moi, nous sommes ressuscités ensemble et nous ressusciterons au dernier jour, même si ce corps est enseveli dans la poussière, qu'il soit au fond de la mer ou ailleurs. Non, tout ce qui est mort ressuscitera. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu que nous aimons si profondément. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai tenu en haleine pendant longtemps, y compris ceux qui ont suivi la retransmission. Je n'ai pas pu m'arrêter en une heure. Et si le Seigneur le veut, je reviendrai ce soir pour que nous puissions parler ensemble. Et ceux qui m'ont entendu maintenant par le biais de la retransmission, vous savez où je vais. D'abord en Afrique, un appel depuis longtemps. Et puis, la vision est venue, l'Esprit du Seigneur a préparé lui-même le chemin. Quand les indigènes ont appris que je ne pouvais pas venir la dernière fois, ils se sont couchés par terre, jour et nuit, par milliers. Voyez, certains croient qu'ils n'ont même pas d'âme. Mais j'ai dit, ne laissez pas un message précéder ma venue, sinon ils ne me laisseront pas entrer. Je dois y aller sous prétexte de chasser là-bas. Sinon, ils ne me laisseront pas entrer à cause de mon passeport qu'ils ont déjà tamponné. Voyez, le stade était déjà loué, ils ne le savaient même pas. Louer et prier pour que la volonté de Dieu ne soit pas entravée. Mon âme est en Afrique pour apporter le message à ce grand rassemblement. Peut-être que je ne vous verrai qu'après, quand je reviendrai. Priez-vous pour moi. Vous ne savez pas quelles difficultés vous devrez affronter, des sorciers ici et là et des démons. Vous devez savoir de quoi vous parlez et ce qui vous tient à cœur. Et où est-ce que vous vous tenez? Je sais en qui je crois et je sais et je suis convaincu qu'il me soutiendra le jour où il viendra grand et glorieux. Prions. Dieu fidèle, ce message de résurrection, et je suis ici prouvant par la parole que cette puissance qui vivifie est dans les enfants de Dieu croyants. Et cette foi a transformé ma vie grâce à la puissance qui vivifie. Et ces personnes croient. Et nous prions les uns pour les autres. Je pose mes mains sur ces mouchoirs que Dieu, qui a rendu Jésus-Christ vivant, que l'Esprit qui l'a ressuscité des morts habite dans nos corps. L'Esprit qui était sur le corps d'Élisée et qui, après sa mort, était devenu une puissance vivifiante, était présent même dans ses os. Les mains des apôtres avaient une puissance vivifiante. Les pensées des apôtres, la vision des apôtres, les langues des croyants, partout régnait une puissance qui vivifie. Ah Seigneur, je leur ai exposé et présenté ta parole qui est cette parole qui est la tienne. Accepte-les. Je te présente aussi tous les malades qu'ils recouvrent la santé par Jésus-Christ. Non seulement ceux qui ont déposé leur mouchoir, mais aussi ceux qui sont dans l'assemblée et tous ceux qui souffrent, les enfants, les personnes âgées. Que la puissance qui donne la vie les rende vivants au nom de Jésus. Combien ont reçu la puissance de la résurrection? Imposez-vous les mains. Priez les uns pour les autres. Si elle est en vous, seule l'incrédulité peut être un obstacle, peut l'empêcher d'agir. Voyez à l'époque quand le Seigneur était. Il s'agit de l'attitude. Le soldat romain, qu'a-t-il fait? Il ne l'a pas reconnu. Mais priez maintenant les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Dieu fidèle. Nous faisons cela au nom de Jésus-Christ. Le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés ou guéris. Ces personnes qui sont ensemble citoyens du royaume et détentrices de la puissance qui vivifie, qu'elle puisse les faire vivre puisse l'Esprit passer maintenant d'aigle à aigle, de parole en parole, dans la plénitude de Jésus-Christ et se manifester dans chaque corps, qu'il soit spirituel, physique ou quel que soit le besoin, pendant que nous nous imposons les mains les uns aux autres au nom de Jésus. Amen.